Bon, merci de votre invitation. Je suis très honoré à faire une lecture académique, ce qui n'est pas rien. Après une telle journée, merci d'être encore là. Lecture académique, alors, même si j'ai fait pas mal de conférences sur beaucoup de sujets, on ne m'a jamais demandé de faire de lecture académique, surtout sans sujet en dessous. Comme on est à l'ère de l'intelligence artificielle, comme je ne savais pas ce qu'était une lecture académique, je suis allé voir sur Google, bien évidemment, tous les chatbots possibles. Bon, lecture, oui, académique, oui, mais rien sur qu'est-ce qu'une lecture académique, quoi. Alors, j'aurais pu prendre ton logiciel d'intelligence artificielle, Michael. On a quand même sa fierté, hein, donc j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et puisqu'on est sur un sujet de l'imagerie, qui est quand même un vaste sujet de l'ophtalmologie, où on a abordé tout un tas d'appareils, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une imagerie un peu réfléchie de la cornée, puisque vous savez que la cornée et le segment antérieur sont quand même mes passions. Et j'ai dit je vais peut-être appeler ça de la lampe à fente à la microscopie 3D. Voilà. Alors, je ne vais pas faire injure à tous ceux qui ont mis au point tout un tas d'examens complémentaires, tous plus indispensables les uns que les autres, et Dieu sait s'il y en a de nombreux. Je vous inviterai quand même chaque fois à faire attention à chaque examen, à vérifier sa véracité, sa fiabilité, etc. Mais bon, il y a quand même un certain nombre d'examens que l'on fait en pathologie cornéenne, la topographie, on a vu une très belle communication ce matin. L'OCT revient tout le temps dans les discussions. On n'a pas parlé de microscopie spéculaire. On pourra en parler un petit peu aujourd'hui. Mais pour illustrer tout ça, je vais commencer par ce patient de 22 ans. Il a eu un LASIK il y a moins de 7 jours et il a une irritation et une rougeur oculaire. Donc on est pile poil dans ton logiciel, Michael. On a publié ce cas dans le JAMA en 2018. Il a un œil rouge, il est irrité, ça ne va pas. Et on voit qu'il y a un très bel OCT HD qui vous montre cette opacité dans l'interface. Mais comme on sait faire un examen en lampe à fente, on a trouvé, vous voyez, cette larve d'insecte hein, qui nous a incité à lui recommander un nettoyage de sa literie à ce jeune homme. Vous voyez bien le morpion qui est dans son interface là, au monsieur. Voilà. Donc, vous voyez d'un côté la coupe et puis de l'autre l'examen en lampe à fente. Vous avez ici un patient qui a, vous voyez, cet épaississement au niveau de la basale épithéliale, cette dégénérescence typique de la dégénérescence de Salzmann. Mais si vous avez une bonne lampe à fente, vous avez exactement la même image, avec la couleur en plus. Pareil, le patient, il a 50 ans, une patiente, douleur fulgurante au réveil. Et on voit effectivement en OCT qu'il y a une petite opacité au niveau de la basale épithéliale. Mais j'allais dire, si vous n'utilisez pas la lampe à fente, ben vous manquez quand même cette très jolie map dot fingerprint épithéliale dystrophie, c'est-à-dire cette dystrophie de Kogan, avec à gauche, vous voyez l'Afrique, au milieu, ben, les dots, les petits points, et puis à droite, les empreintes digitales que vous avez en lampe à fente. Et puis vous loupez aussi cette très belle tête de fantôme sur la face antérieure de la cornée. Je ne suis pas certain que l'intelligence artificielle nous la donne. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais insister un peu sur la lampe à fente, et pour les plus jeunes aussi, vous verrez que vous pensez savoir vous en servir, et que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des évolutions, et après tous les dispositifs qu'on a pu acheter, et sans avoir aucun lien d'intérêt avec quelconque société, il n'y a qu'une lampe à fente qui puisse être utilisée, et celle-ci, elle est de bonne qualité, comme vous le voyez, comme le sigle l'indique sur ce dispositif. Alors, ce que je conseille, quand vous avez une lampe à fente, c'est d'avoir un diffuseur. Et le diffuseur d'abord, il faut l'avoir, le diffuseur puis sa fente. Alors le diffuseur, lui, c'est le seul truc, c'est l'OCT en face, si vous voulez. Hein. C'est lui qui vous donne la surface, le volume de la pathologie. On voit bien qu'il y a des opacités, on voit d'où elles vont, on voit la taille de l'ulcère que l'on peut mesurer, on voit qu'il y a des néovaisseaux qui viennent à droite, à gauche. Mais là, si vous êtes... pardon. Voilà. Je peux peut-être pas Je peux peut-être pas l'avancer, oui. Bon, c'est pas grave. On va revenir au truc. Ouais. La lampe à fond, donc on l'utilise d'abord avec un diffuseur pour évaluer la surface également. On verra tout à l'heure que c'est important de faire une photo pour avoir la surface occupée par la pathologie. Donc on commence toujours comme ça, on balaye, éventuellement on garde en photo. On voit que là, c'est une opacité, en fait, elle est profonde, mais on ne le perçoit pas. Ici, vous avez un très bel abcès. Puis ensuite, vous mettez votre fente sur le côté. Là, vous voyez que la pathologie et cette dystrophie, elle est antérieure. De même, cette kératite en bandelette, l'opacité n'est que antérieure, telle que vous le montrerez à un OCT HD. Et là, vous voyez ici, en prenant sur le côté, bien fin, eh bien que vous avez tout le stroma cornéen qui est transparent, vous allez voir, et que l'opacité que vous allez avoir en avant, eh bien, elle ne touche pas, elle est au niveau de l'épithélium et de sa basale, et que si vous grattez cette pathologie, ben vous allez éclaircir cette cornée. Donc, non seulement vous avez la coupe, mais vous pouvez balayer la cornée comme ça, vous savez d'où elle est, jusqu'où. Donc, vous voyez ici que c'est une pathologie postérieure, donc une greffe antérieure n'arrivera pas à la corriger. Vous voyez bien que c'est sur la partie droite de la fente que vous avez votre opacité, avec, vous voyez, l'endothélium opaque à droite et l'épithélium transparent à gauche. Pareil, une pathologie Avelino, une dystrophie stromale ici. Vous voyez bien qu'ici, elle va toucher plus le stroma profond, et donc vous allez adapter votre prise en charge et même l'indication de l'OCT à cette occasion. Sur des plaies, vous pouvez même, comme ça, là, balayer votre cornée et savoir en permanence où se trouve votre opacité. Vous voyez ici qu'elle occupe le tiers antérieur. Et vous pourrez le confirmer ensuite si vous avez besoin d'un OCT, parce qu'on verra quand même qu'il y a un intérêt à cela. Vous avez ici un amincissement cornéen supérieur. Et en utilisant votre fente, vous voyez bien le stroma qui a été lisé. Alors aussi, quand vous avez une cornée déformée, parfois on n'arrive pas toujours à savoir si cette cornée est en train d'un astigmatisme ou pas, vous balayez votre fente comme ça de gauche à droite et vous regardez la fente quand elle passe devant le cristallin. Vous voyez, toutes les aberrations de votre cornée, vous allez les voir se matérialiser sur le cristallin et ça va vous donner un appel comme ça sur votre analyse de la régularité cornéenne. Un point que vous ne faites pas, c'est la rétroillumination. Et vous voyez cette molette que vous avez sur votre lampe à fente. Qui est-ce qui l'utilise régulièrement, cette molette? Alors, vous dévissez, hein, vous savez que vous pouvez incliner comme ça votre fente. C'est-à-dire que même si vous êtes en face du patient, votre fente, au lieu d'être plein centre, vous allez la décaler sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et c'est là que vous allez avoir une rétroillumination qui va vous montrer un certain nombre de choses tout à fait fabuleuses. Donc vous avez votre fente là, et avec la molette, on va la déplacer. Voilà, on déplace, et vous avez déjà la rétroillumination. Alors, elle vous donnera des anomalies du cristallin, mais aussi des anomalies cornéennes, on va le voir. Donc ici, vous avez une cornée à goutte atteint, une dystrophie de Fuchs, et vous décalez, et vous allez tout de suite voir toute la surface de la cornée qui est recouverte par la cornée à goutte atteint. Mais il y a tout un tas de zones qui ne le sont pas. Et on verra tout à l'heure que ce sont ces zones-là que l'on va viser pour faire une microscopie spéculaire, par exemple. Vous voyez, en plein centre, on a une cornée à goutte atteint, mais sur le côté, ben, on n'en a pas. Voilà. Donc, il n'y a que la rétroillumination qui vous montrera bien ces zones de différence. Et puis, dystrophie postérieure, que vous voyez en latéral, puis en lampe à fente, ici une polymorphe, absolument rarissime, ou même des néovaisseaux que vous allez voir comme ça en rétroillumination et que vous allez mieux voir. Alors après, vous voyez, ça c'est une rétroillumination avec la lumière pupillaire. Mais si vous vous mettez en fente comme ça, vous allez aussi avoir une rétroillumination cornéenne en rebondissant sur l'iris. Donc tout ce qui est corps étranger intracornéen, tout ce qui est néovaisseaux, tout ça, vous allez pouvoir les voir à ce moment-là facilement. Donc vous avez la fente centrale, la fente latérale. C'est ce qui vous permet de voir un implant luxé pareil. Vous voyez sur la droite cette belle image. C'est cette rétroillumination qui vous permet également de vérifier l'orientation d'un implant torique en tournant votre lampe à fente et en déterminant l'axe sur lequel se trouve votre implant. Donc la rétroillumination cornéenne, on s'en sert tout le temps. Vous voyez, la fente, elle tape la cornée à gauche de la zone que vous voulez analyser. Elle rebondit sur l'iris et vous voyez là cette larve d'insecte qu'on a vue tout à l'heure. Ou à droite, vous voyez les fingerprints, hein, votre lampe à fente, elle tape à gauche et vous regardez à droite et vous avez la belle image qui apparaît à ce moment-là. Et puis si vous êtes en lampe à fente, c'est bien beau de voir des choses souvent, mais est-ce qu'on les relaye à la pathologie décrite par le patient ? Et vous voyez, quand le patient il décrit une symptomatologie de kératalgie récidivante, c'est vrai qu'on voit parfois des choses, mais parfois on ne voit rien. Et avec la lampe à fente, vous pouvez faire du fonctionnel aussi. Vous voyez, vous mettez une goutte de tétracaïne, un petit coton, et vous allez étudier la stabilité de l'épithélium cornéen. Et si vous avez quelque chose comme ça, vous voyez tout l'épithélium qui bouge comme un drap de lit, ben, même si en lampe à fente, il n'y avait rien, vous avez posé votre diagnostic. Donc vous avez aussi le côté fonctionnel avec une lampe à fente. Ici, vous testez la sensibilité cornéenne dans une pathologie trophique. Et vous voyez que le pauvre monsieur, il sent pas grand-chose et que ça va expliquer les ulcères qu'il va présenter. Donc, il n'y a pas que la vue, il y a aussi le fonctionnel. On touche. Ce qui est important aussi, c'est dans vos dossiers, vous photographiez l'image de votre œil en lampe à fente quand il y a une pathologie. Parce que vous avez des nouveaux vaisseaux, vous avez des opacités, ça évolue tout ça. Vous ne vous souviendrez pas. Il faut prendre des photos. Et ça, c'est absolument capital d'investir dans une bonne lampe à fente photographique. Alors, si on en fait beaucoup, il faut un bon système qui coûte un peu cher sur une lampe à fente de très grande qualité. Il y a tout un tas de dispositifs aussi qui vous permettent d'installer un iPhone, voire même sans rien, vous pouvez mettre votre iPhone dans l'oculeur droit. Et puis, vous pouvez quand même avoir accès en plongeant dedans. Vous voyez, on peut avoir une qualité d'image qui est assez exceptionnelle. Et on peut mettre dans un dossier une image d'iPhone si besoin. Donc, il faut utiliser ça. Parce qu'après, vous ne pourrez pas. Donc, il faut comparer, on oublie. Et puis, en particulier, tout ce qui est examen à la fluorescéine. Alors, l'examen à la fluorescéine, vous aussi, vous pensez que vous savez très bien le faire, etc. Mais souvent, on va vite en lampe à fente. On dit, il y a un OCT derrière. On va sauter l'étape. Mais on manque plein de choses. Et pareil en examen en fluorescéine. D'abord, qui est-ce qui utilise le filtre jaune à part les contactologues, hein? Quand vous avez une image de kératite ponctuée superficielle, vous voyez, elle apparaît uniquement sur la cornée, là. Vous mettez un filtre jaune devant votre lampe à fente, vous allez tout de suite voir beaucoup mieux les zones pathologiques, ici conjonctivales en l'occurrence. Et lorsque vous allez les iconographier, vous allez pouvoir mieux évaluer l'évolution de ces pathologies. Ensuite, la fluorescéine, ça ne fait pas que stagner dans les zones d'ulcères. Ça vous sert également à diagnostiquer tout ce qui est irrégularité, tout ce qui est bosse au niveau de la cornée. Donc par exemple, là vous avez une dystrophie épithéliale, vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas recouvertes à gauche par la fluorescéine. Vous voyez qu'il y a deux petits points qui sont, vous voyez, comme l'île au milieu de l'océan. D'accord ? Et puis même si vous regardez à droite, vous voyez qu'il y a toute une zone qui est moins recouverte par la fluorescéine. Là, je vous la schématise là. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a des irrégularités. Alors certes, l'épimapping permettrait de retrouver probablement à cet endroit une surépaisseur à cet endroit. Mais une goutte de fluo, bon, ça marche aussi. Par exemple ici, vous voyez ces reliefs dans les nodules de Salzmann à gauche. C'est vrai que vous ne les voyez pas très très bien là, mais vous mettez une goutte de fluorescéine, waouh, on voit tout. Donc voilà, vous posez votre diagnostic en deux secondes. Après, dans les fameux ulcères comme cette... ulcère géographique dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que voilà, on voit l'OCT, on va voir qu'il manque l'épithélium à un endroit. Mais est-ce qu'on va voir que la fluorescéine va glisser sous l'épithélium pour presque être pathognomonique dans une dendritique d'une kératite herpétique? Pas forcément. Donc effectivement, ça c'est important. Il y a des mécanismes aussi. Vous pouvez évaluer la teneur de la barrière épithéliale de votre cornée. Vous mettez une goutte de fluorescéine et vous voyez en bas à gauche, une minute, vous faites un examen en lampe à fente de la chambre antérieure. Et vous voyez qu'à partir de 5 minutes, vous voyez qu'elle s'imprègne totalement de fluorescéine, ce qu'elle ne devrait pas. Et puis vous voyez qu'à 15 minutes, vous avez votre chambre antérieure qui est pleine de fluo. Donc ça veut dire que vous n'avez aucune barrière. Et tout traverse. Hein. On comprend que les infections puissent être délétères. Et puis quand vous avez un mécanisme de cicatrisation, vous avez 1 minute et 15 minutes, vous voyez que la fluorescéine, elle stagne sur la face avant de votre cornée. Elle ne pénètre pas dans la chambre antérieure. Vous ne savez pas si un fil est détendu ou pas détendu, vous mettez une goutte de fluo. Ainsi, il prend la fluo, c'est qu'il est détendu, votre fil. Il ne sert à rien, vous pouvez l'enlever. Donc si vous avez un doute, c'est quand même bien. Après, pour les jeunes, méfiez-vous de la prise de fluo dans une cornée. Hein, il y a ce qu'on appelle l'effet pooling, comme la piscine, c'est-à-dire la fluorescine qui s'accumule au fond d'une crevasse. Mais pour avoir un ulcère, il faut qu'il y ait une absence d'épithélium, que ça soit désépithélialisé. Et là, vous avez un patient pour lequel la fluorescine va stagner. Mais vous prenez une petite éponge, vous faites cligner, vous enlevez la fluorescéine et vous rendez compte qu'elle ne stagne pas. Donc vous allez différencier, vous voyez, à droite, finalement vous n'avez plus de fluorescéine. Et vous allez différencier en haut à gauche, vous voyez ce qu'on appelle un vrai ulcère ou avec un effet staining où la fluorescéine va pénétrer dans la cornée, dans le stroma. Et en bas, vous avez la fluorescéine qui n'est pas vraiment donc une cornée fluo plus. Je vois encore trop de fois où on me dit un ulcère, fluo plus, etc. Et en fait, ça n'est pas un ulcère, c'est une cicatrice d'ulcère. Donc il faut bien faire la différence entre tout ça. Ça vous permet également, et ça bien mieux que tout autre imageur que l'on a vu aujourd'hui, d'évaluer la rapidité de la cicatrisation d'un ulcère. Vous faites une photo tous les jours ou tous les deux jours, vous voyez si ça va mieux, etc. Donc faites des photos, on peut même avec des logiciels d'analyse de surface tout simple et gratuit, évaluer la surface pour des études, etc. Ça va vous aider, la fluorescéine, pour déterminer des ulcères de Morène, l'ulcère dendritique, d'autres pathologies. Voilà. Le CEDEL aussi, à droite. Il y a que... On fait pas le CEDEL, je pense, non, en OCT. Je crois pas. Mais en OCT, on peut voir effectivement à gauche l'absence, cette hypothalamie magnifique que vous voyez avec une très belle lampe à fente, si vous savez le photographier, si vous savez bien focaliser, et donc si vous prenez l'habitude et le plaisir de vous servir de votre lampe à fente, et en même temps, sur la même image, vous avez la thalamie et vous avez la cause à droite, puisque vous avez le CEDEL après la goutte de fluo. On a vu ce matin avec Serge Dohan le film Lacrymal. Alors oui, effectivement, on peut mesurer avec des imageurs, mais il l'a dit lui-même avec un peu d'habitude. Moi, le film lacrymal, je sais tout de suite s'il est épaissi, pas épaissi, etc. L'intérêt des imageurs, ça va être qu'il va mesurer, qu'on va pouvoir évaluer la progression, l'aggravation, etc. ou pas. On pourra faire des comptabilités, on pourra faire des scores, par exemple dans l'œil sec, ou bien mettre en évidence, vous voyez, les kératites filamenteuses. Pour tous les contactologues que je remercie au quotidien, la fluorescéine est forcément un examen indispensable. Donc vous voyez, la lampe à fente, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. On ne peut pas dire que la lampe à fente va disparaître parce qu'il y a des choses comme ça en 3 secondes que vous diagnostiquez sans avoir besoin d'envoyer votre patient ailleurs. Alors forcément, il faut des examens complémentaires. Alors l'OCT, on va commencer par ça, le pentacam, je ne vais pas en parler. Mais l'OCT... Alors c'est vrai que là, vous voyez, on a fait une greffe de cornée, on a une belle coupe OCT, elle confirme qu'on a fait une greffe de cornée. Bon, ici, on a fait une DIMEC, on zoome sur la lampe à fente, puis on voit qu'à gauche, il y a le greffon endothélial qui est bien adhérent, et l'OCT va nous confirmer que c'est adhérent. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que très souvent, l'OCT, il va confirmer ce qu'on voit à la lampe à fente. Donc, vous demandez un examen quand vous en avez besoin. Mais il y a tout un tas de fois où c'est pas la peine, quoi. Donc à gauche, vous voyez que l'endothélium est décollé, mais à la lampe à fente, vous pouvez à la fois diagnostiquer le décollement que vous voyez ici en fente. Vous voyez bien que votre membrane de Descemet est décollée, et puis en même temps, vous pouvez la recoller dans le même temps. Donc c'est double usage, diagnostique et thérapeutique. Dans une greffe lamellaire profonde, vous avez enlevé tout le stroma en totalité. En OCT, vous ne faites pas la différence avec une greffe totale. Mais si vous avez un œdème, vous regardez à gauche, je ne sais pas si on le voit, mais on voit très très bien le décollement de la membrane de Descemet, vous pouvez le confirmer avec un OCT également. Ici, le patient n'a récupéré que 3 dixièmes après une greffe lamellaire profonde. Bon, ben, si on zoome bien, on voit bien que sur la partie gauche, il persiste une quantité de stroma. Alors là, l'avantage de l'OCT, c'est qu'il va vous la mesurer. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut utiliser les examens complémentaires avec mesure, mais un peu. Et en tout cas, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que quand vous allez faire des coupes, elles vont vous donner des chiffres. Et ça, c'est vrai que ces chiffres, ça peut nous aider beaucoup. En particulier, ça mesure l'épaisseur de l'épithélium. Vous voyez à droite, ça fait à peu près 50 microns en général. Et à gauche, ça vous donne des mappings de la cornée. Donc vous avez à peu près d'ensemble. Quand vous voulez des chiffres d'épaisseur, là, vous allez vous servir des examens complémentaires. Si vous voulez voir ce qui se passe, on va dire. Ensuite, méfiez-vous des examens complémentaires. Vous avez un OCT, mais vous faites confiance aveuglément à l'épaisseur, au mapping. Mais vous voyez que là, la segmentation de l'épaisseur, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que sur une coupe et sur toutes celles à côté, eh ben, il n'a pas bien déterminé l'épaisseur de la cornée. Donc, il va vous rendre un chiffre qui est... mauvais. Donc il faut reprendre toutes vos coupes pour les regarder. Et ça, il faut un logiciel d'intelligence artificielle pour reprendre les coupes, pour qu'il puisse se rendre compte comment lui s'est trompé, etc. Mais sinon, vous ne pouvez pas faire, confiance aveuglément à ça. Alors après, vous pouvez mesurer ici un greffon, vous voyez, dans une nano-dissec de 26 microns. Alors on peut s'en servir quand même, vous voyez. Par exemple, vous avez une dystrophie de Fuchs, le patient il a une petite gêne, mais ça va encore, une bonne acuité visuelle. Effectivement, il a un épithélium régulier à 50 microns. Il a une cornée qui fait 560 microns, un peu plus épaisse, mais ça va. Bon, là, c'est vrai qu'on va s'abstenir, mais on se sera abstenu devant les symptômes du patient. Mais là, il est un petit peu gêné. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sa cornée elle fait 550 microns d'épaisseur. Mais on voit que son épithélium, lui, il est plus élevé. Il fait 70 microns. Vous voyez ? Donc, il n'a pas encore une vraie décompensation. Il est gêné. Probablement qu'on peut gagner quelques années en faisant un traitement de surface. On peut faire une photokératectomie thérapeutique. C'est plus l'épithélium qui le gêne. Peut-être la petite fibrose va permettre d'améliorer les choses et le patient va quand même être bien pendant 2 ans. Après, c'est vrai que si on a un épithélium épaissi et une cornée épaissie, mais là, le patient... Il a une cornée, vous voyez, même en lampe à fente qui est déformée. Là, on va forcément le greffer. Et ça aide aussi lorsqu'on va faire du laser. Donc, si vous avez une opacité superficielle, ça, vous l'avez déterminé en lampe à fente. Vous savez très bien que l'opacité est superficielle, mais vous ne savez pas exactement de combien. Donc là, on va la mesurer, on va trouver 95 microns. Donc forcément, lorsque vous allez utiliser votre laser pour retirer le stroma antérieur, bien, vous allez... vous caler à l'épaisseur la plus faible possible pour essayer de préserver le maximum de cornée. Le cas typique dans les dystrophies de Rice-Buckler, ben, on a un résultat souvent très très intéressant. Voilà. Après, dans les décisions de greffe aussi, ça peut quand même aider si on est certain que les opacités vont atteindre la membrane de Desmet. Bon, ben, à ce moment-là, on va hésiter à faire des greffes lamellaires profondes. Donc, ça va être une aide au diagnostic dans ces cas-là. Vous avez des cas comme ça, où vous voyez, c'est après une kératite herpétique, il y a un amincissement, mais vous voyez qu'il est un peu latéralisé. Vous avez 600 microns d'un côté, vous en avez 350 de l'autre. Alors là, vous savez qu'au moment de la trépanation, si on trépane comme on le fait habituellement à 450 microns, on va perforer. Donc on va s'adapter aux mesures que l'on a prises. Vous voyez, on a épaissi la cornée pile poil dans les endroits où elle fait 300 microns. Et à ce moment-là, on peut la pré-trépaner sans la perforer. Et vous voyez qu'on a fait une jupe périphérique, une petite dissection lamellaire, pardon, dans la zone où il y avait un amincissement. Et on va préparer un greffon lamellaire qui aura une jupe qui pourra l'épaissir à cet endroit-là. Donc, on va reconstruire un petit peu à la carte cette cornée en fonction de la cartographie pachymétrique que l'on va avoir eue. Vous voyez, de la zone qui amincit, on va rajouter une épaisseur et ça va nous permettre d'avoir une cornée non seulement greffée, mais régulière. Parce que c'est toujours compliqué quand vous avez un amincissement périphérique pour greffer un patient. Vous voyez, si on fait une coupe avant, on a ce qu'on avait, et puis on fait une coupe après, voilà. Vous voyez que dans la même zone, on a pu réépaissir cette zone-là sans toucher à celle d'à côté. Voilà. Donc l'OCT va nous servir dans ces occasions. Pour ceux qui en ont, je ne sais pas, on nous vante les mérites permanents de l'OCT per-opératoire. Donc à gauche, on voit bien le greffon, on a fait une petite marque pour savoir si on est dans le bon sens. Puis à droite, vous avez une image OCT per-opératoire d'un greffon, du même, hein, bien sûr, qui est censé nous dire dans quel sens on doit le mettre. Mais à gauche, on a une petite marque, donc on voit très bien dans quel sens il est. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut en aider certains pour certaines situations, si la cornée est très opaque. Voilà, en tout cas, l'OCT s'invite aussi au bloc opératoire, avec pour certains un intérêt, pour d'autres un petit peu moins. Alors, je suis passé un peu à la microscopie spéculaire, parce que vous allez me dire, avec ta lampe à fente, tu ne vas pas pouvoir quand même analyser les choses. Et c'est vrai que c'est la technique de référence, et c'est un truc hyper vieux, là, la microscopie spéculaire. Ça s'est pas vraiment amélioré depuis une trentaine d'années. Ça s'est peut-être même dégradé, oui. Ça permet d'évaluer la densité et de mesurer, de faire une étude qualitative de la mosaïque. Quand même, ça sert à évaluer la capacité de l'endothélium à supporter une chirurgie intraoculaire. Si vous avez 500 cellules par millimètre carré, c'est compliqué d'opérer le patient de la cataracte. Ça sert à estimer la tolérance vis-à-vis d'un implant et de confirmer ou infirmer certains diagnostics. Alors, il faut toujours comprendre les principes d'un examen pour pouvoir bien le comprendre. La microscopie spéculaire, un spéculum, c'est miroir. Donc, c'est-à-dire que l'appareil va récupérer l'infime partie de lumière réfléchie dans son capteur. La majeure partie de la lumière traverse, mais celle qui est réfléchie, c'est celle-là. Donc, on est vraiment sur de la lumière qui rebondit. Ce principe-là, Vogt l'avait déjà établi il y a bien longtemps avec sa lampe à fente, puisque vous pouvez voir votre endothélium avec une lampe à fente. Il suffit de grossir et puis vous la déplacez pour vous laisser éblouir. Il faut chercher à être ébloui par votre lampe. Vous voyez le faisceau de gauche, il vous éblouit. Et dès que vous êtes ébloui, vous regardez à droite de l'éblouissement. Et quand vous regardez à droite de l'éblouissement, vous voyez la goutte à tas de ce patient. Vous voyez les hexagones. Et vous savez, avec l'habitude même, établir une densité endothéliale entre 500 et 1000, entre 500 et 1000, entre 1000 et 1500, etc. Parce que vous le regardez beaucoup. Donc amusez-vous demain à faire ce genre de choses. Vous allez voir l'endothélium et vous allez pouvoir avoir des choses que vous photographiez. Vous voyez à droite, vous avez, dans l'image de gauche, vous voyez à droite de l'éblouissement, vous avez une densité endothéliale satisfaisante. Et puis, sur l'image de droite, vous avez une cornée à goutte à tas avec une dystrophie de Fuchs. Alors, cet examen, malheureusement, aujourd'hui, il est sans contact, parce que ces appareils sans contact ne permettent d'analyser qu'une surface de cornée absolument minuscule. Vous voyez, 0,1 mm carré, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement faible. Et à partir de ce que vous allez trouver là, vous allez déterminer la densité qu'il y a sur toute cette cornée parce que vous estimez que ça s'est réparti un petit peu partout. Ce qui n'est pas totalement faux, mais en tout cas, ça vous montre un peu la fiabilité. Plus les cellules sont nombreuses, plus elles sont grandes en taille. Donc on voit qu'à gauche, il y a une densité de plus de 2000 cellules. À droite, il y a 730 cellules par millimètre carré. Elles ont grandi, etc. Et ça, c'est une mesure semi-automatique. Mais tous les imageurs, aujourd'hui, ils vous donnent un logiciel d'analyse automatique. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait clac, et puis, paf, ils vous pondent ça tout de suite. Alors ça, c'est génial, parce que colonne de gauche, 2532 cellules par millimètre carré, moyenne, vous voyez, 391 microns, enfin, on a tout un tas de choses. Alors, vous ne regardez que ça, la densité 2530. Et puis ici, il vous donne le nombre de cellules qui ont six côtés, c'est-à-dire la régularité des cellules, c'est-à-dire le polymorphisme. Normalement, si elles ont toutes six côtés, c'est-à-dire si on a un gros pic là, allez, on peut accepter 4 ou 5, 4 ou 7, ça veut dire que c'est une bonne cornée. Et puis, il vous montre également la distribution de la surface des cornées, c'est-à-dire le polymégétisme. Donc normalement, on devrait avoir qu'un seul pic, comme on peut le voir par exemple ici à droite en bas. Vous voyez, vous avez toutes les cellules qui ont la même surface. Donc ça veut dire qu'on est un endothélium régulier Et à gauche, elles ont quasiment toutes six côtés. Vous voyez, écrit sur l'apex. Non, je n'ai pas de truc. Voilà. Donc voilà la chose. Le problème, c'est que c'est une intelligence artificielle qui fait ça. Et ce n'est pas que l'intelligence artificielle, on est tout à fait contre, on est à fond pour. Mais par contre, il faut la critiquer de temps en temps. Et par exemple, là, vous avez des cellules de grande taille, et je ne sais pourquoi, le logiciel a rajouté tout un tas de cellules de petite taille, parce qu'il fait avec des niveaux de gris. Et ça, depuis 20 ans, ça n'a absolument pas progressé, ce système-là. Alors vous allez le voir bien, là. Est-ce qu'on a Laurent? Est-ce qu'on a une... Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, quand même, il faut regarder. À gauche, c'est une analyse automatique. À droite, c'est une analyse semi-automatique. Automatique, ça veut dire c'est lui qui voit, qui détermine les cellules par lui-même. Donc, vous voyez ici, là, j'entoure une cellule. Il n'y a qu'une seule cellule. Vous la voyez à droite, ici, là. Mais lui, il en a mis deux. Idem, ici, il en a mis deux. Ici, il en a même mis trois. Vous voyez cette cellule-là? Il en a mis trois. Donc, c'est-à-dire que là, je reçois le résultat, 1376 cellules par millimètre carré. Je fais moi-même le dosage, 363 cellules par millimètre carré. Donc, vous voyez les dispersions de la fiabilité que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est très, très important de le savoir. Et puis, lorsqu'on analyse sur une cornée à guttata, on voit parfois arriver des résultats à zéro cellule parce qu'on ne les a pas vus. Mais le principe, on l'a dit tout à l'heure, c'est spéculaire. Donc, c'est-à-dire chaque fois que le rayon il arrive sur une goutte, bah, il ne rebondit pas que vers le capteur, il rebondit n'importe où, puisqu'il rebondit, c'est irrégulier. Donc il va y avoir des trous, mais ces trous ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de cellule derrière. Ça veut juste dire que ça ne revient pas sur le capteur. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous cherchez dans la zone où vous n'avez pas de guttata, et c'est là que vous allez rechercher une réserve de cellules endothéliales et voir si quand même vous ne pouvez pas opérer la cataracte, etc. Mais ce n'est pas le sujet. On peut évaluer le suivi des greffes, mais en tout cas, si vous avez encore des implants FAC dans vos patients qui ont été posés il y a un certain nombre d'années, bah, il faut quand même tous les deux ans, deux fois par an mesurer tout cela. Ce qui est important donc, pour la microscopie spéculaire, c'est incontournable avant une chirurgie de la cataracte. Si une cornée à guttata, si vous avez eu un glaucome par fermeture de l'angle, on oublie parfois de faire ce spéculaire après un glaucome par fermeture. Tous les glaucomes, ils ont moins de 2000 cellules. Donc, il faut quand même le faire. C'est médico-légal presque. Hein. Ça va vous protéger. Vous ne pouvez pas dire, je vais enlever la cataracte et tout va aller bien. Traumatisme chirurgical, une inflammation, les implants FAC, les implants pseudo-FAC de chambre antérieure. Alors là, on n'est pas obligé de le faire deux fois par an, mais on peut le faire régulièrement. Voilà. Et donc, les mesures doivent être toujours interprétées avec précaution. Ça, c'est comme pour tous les examens. La surface analysée, elle est faible et ce n'est pas toujours fiable, surtout si on a mis le mode tout automatique. Donc, moi, je ne fais jamais de tout automatique. Je fais que du semi-automatique. Et forcément, on essaye de trouver plusieurs endroits de la cornée. Après, pour terminer un peu cette présentation et parce que vous avez vu quand même que j'étais un grand fan de la lampe à fente. Alors, pour terminer, puisque ce sont des choses qu'on avait publiées il y a quelques années, je vous ai montré que la cataracte, on pouvait injecter une bulle d'air, etc. Ben, il y a des patients, ils ne peuvent jamais être assis ni semi-assis. Ils sont insuffisants respiratoires. Et ben, derrière une lampe à fente, on peut opérer une cataracte. Donc, la lampe à fente, elle va rester, croyez-moi. Et je pense qu'on en aura besoin. On avait publié ça il y a 3 ans. Et un patient insuffisant respiratoire, 15 litres d'oxygène, qui ne peut être que assis, eh bien, je vous garantis que c'est le meilleur moyen de l'opérer de sa cataracte. C'est assis à une lampe à fente. Et il est peinard sur sa lampe à fente. Toutes les 2, 3, 4 ou 5 minutes, il peut même enlever la tête. Il respire, on se remet, on se réinstalle, etc. Et donc, voilà. Donc, c'est un outil magique dont il faut savoir se servir. Peut-être pas les jeunes opérateurs, il faut quand même être un petit peu chevronné. En tout cas, ce sont des solutions qui sont tout à fait possibles. Vous voyez ici l'implantation, Le souci, c'est qu'il faut opérer l'œil droit, main gauche pour être bien, pour être loin. Et donc, il faut quand même avoir l'habitude. C'est plus facile d'opérer un œil gauche quand on est droitier. Voilà. L'imagerie, c'est de la 3D. Hein, on est bien d'accord. Hein. Vous avez une lampe à fente, c'est de la microscopie 3D. Mais bon, on va quand même pas être des vieux schnocks. Hein. La microscopie 3D, on sait aussi s'en servir. Et il y a des patients qui peuvent être ni allongés ni assis. Alors eux, malheureusement, c'est vrai que la lampe à fente, on peut rien pour eux. Vous voyez, il y a une angulation de 54 degrés, il ne bouge pas comme ça depuis un an, le gars. Alors, heureusement, on a les microscopes 3D, et puis on a des microscopes qu'on peut incliner sur l'angulation que l'on souhaite. Et donc, on va se mettre bien en face du patient. Et donc, l'avantage, c'est que l'opérateur, lui, il regarde en face de lui, hein, il n'a pas à mettre la tête complètement tordue. En étant à cheval sur le patient. Voilà. Donc vous voyez, on positionne le microscope 3D devant l'œil du patient. Et pour moi, c'est à ce jour la seule vraie indication de microscopie 3D, puisque j'ai déjà un microscope 3D quand j'ai mon microscope moi-même. Donc voilà. Mais ça, c'est vrai que ça, je ne peux pas le faire avec un microscope normal. Parce qu'on ne peut pas se positionner correctement sans être totalement tordu. Voilà. Donc vous voyez le patient positionné. En fait, il a la conjonctive un peu rouge parce qu'il a une anesthésie sous-ténonienne. Et puis, vous voyez, comme il a tout un tas d'épaisseurs, on est obligé d'opérer soit debout, soit assis avec un siège en position extrêmement haute. Mais globalement, on s'appuie sur la table. Et on arrive à opérer la cataracte dans des bonnes conditions. Donc merci au progrès. Vous voyez comment on fait une cataracte normalement. Voilà. Alors c'est sûr qu'on n'a en général pas tout à fait l'habitude, on est un peu dans des conditions un petit peu différentes, mais ce sont des choses que l'on peut faire de façon tout à fait naturelle. Vous voyez, on est debout pour faire la chirurgie, etc. Voilà, ça rend service à ces patients qui malheureusement sont handicapés dans un lit et la seule activité qu'ils peuvent faire, c'est lecture et télévision. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Marc pour cette superbe présentation et rappel aux fondamentaux. Chirurgies sont très confortables, j'imagine. Oui, ça doit être très facile d'opérer des patients.
S'adapter à nos patients et essayer de trouver des solutions lorsqu'il semble ne pas y en exister.
Voilà. Bravo, je crois que ce congrès se termine. Donc merci à tous pour votre participation.